Cette Chegouin.
Bonjour.
Et bonjour Laetitia Chorel.
Bonjour.
Laetitia Chorel, comment expliquer que tout cela n'éclate que maintenant, en 2025? Où étaient ces archives cachées sur lesquelles vous avez mis la main pour étayer vos révélations?
Alors d'abord, pourquoi que maintenant? Tout simplement parce que quand l'abbé Pierre lance son appel de 54, il devient une star mondiale. On n'imagine pas à quel point il a été renommé en France, mais dans le monde entier. Et en fait, son action aussi vis-à-vis des plus démunis le protège, parce que en fait, ça redore l'image de l'Église, ça redore l'image de la France aussi. Et donc, il y a un système qui va se mettre en place autour de lui pour cacher tout ça, pour éviter le scandale, et donc c'est ça aussi qui fait qu'il a été protégé jusqu'à ce que des femmes courageuses prennent la parole en juillet 2024.
Ça a été le début de votre enquête. À un moment donné, en France, l'Église ouvre ses archives, vous plongez dedans, et ce que vous découvrez est complètement hallucinant.
Oui, on se rend compte que à partir de 55, donc Le Vatican est informé des comportements de l'abbé Pierre. Le mot agression n'est pas prononcé, mais ce sont des femmes qui se sont plaintes de ces attouchements.
Il y a une liste avec des agressions.
Voilà,
le
Vatican est informé, c'est écrit noir sur blanc. Le Vatican demande qu'une procédure judiciaire soit ouverte à l'encontre de l'abbé Pierre. Cette procédure va être enterrée par l'évêque dont dépend l'abbé Pierre et l'épiscopat français, parce que, dit-il, c'est aussi écrit noir sur blanc, c'est un prophète qui galvanise les masses.
Il parle à des gens que l'Église n'arrivait pas à
joindre. Exactement. Et donc pendant 10 ans, l'Église va essayer plus ou moins de le chaperonner, de le suivre. Là aussi, on a une masse de lettres incroyables qui montrent comment sont traitées ces affaires de violence sexuelle à l'époque dans l'Église. Et en fait, c'est plutôt le scandale qui pourrait créer, qui est la hantise de l'Église à l'époque. Il n'y a pas un mot pour les victimes. Et donc, dès qu'il arrive quelque part, c'est attention, il est là, surtout le laissez pas seul, etc. À un moment donné, on va envisager de l'envoyer dans un pays sous-alimenté, comme le disent les évêques à l'époque, ou dans un village de lépreux où, espère-t-on, il n'y aura pas de publicité scandaleuse.
Même en France, les évêques savaient, ils en parlaient entre eux et ils ont essayé de l'expulser. Oui.
Dire
maintenant qu'en fait on découvre tout après sa mort, c'est faux.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en septembre, quand le scandale éclate, la conférence des évêques de France dit s'il y avait un ou quelques évêques qui étaient au courant, c'était le maximum. Or, les archives qu'eux-mêmes ont ouvertes montrent que c'est pas un ou quelques évêques, ce sont tous les évêques. C'est-à-dire qu'il y a des réunions plénières au sein de l'épiscopat pendant 10 ans, où on voit bien que tous, ils sont informés, ils ont des mesures à appliquer, donc il y a eu des mensonges aussi.
Ce qui est assez génial, c'est que vous retracez les différentes communications entre le Vatican, ses évêques, les institutions plus locales et Rome. Comment vous avez procédé pour aller choper les archives à Rome? On a envie d'être une petite souris et de découvrir que c'était dans une vieille bibliothèque toute poussiéreuse. Comment vous avez dû forcer un coffre? Comment vous avez procédé?
Alors déjà, dès que la France ouvre ses archives, ensuite on a le pape, souvenez-vous, qui dit dans un avion, le Vatican savait après la mort de l'abbé Pierre, mais avant on ne sait pas. Donc là, comme tous les journalistes, on appelle tout de suite le service de presse du Vatican, qui dit, non, il n'y a pas encore de dossier. Et bon, donc on rappelle régulièrement. En fait, on pense à une autre piste qui sont les archives déclassifiées d'un pape qui s'appelle Pie XII, qui ont été déclassifiées très récemment en 2020, et donc qui vont jusqu'à 1958. 1958, c'est au-delà d'un événement qui marque un peu la connaissance qu'on a des agressions de l'abbé Pierre, c'est qu'en 1955, il va faire un séjour aux États-Unis et au Canada. Là, il agresse des femmes, il y a des femmes qui se plaignent, ça remonte au Vatican. Donc on se dit, peut-être que dans ces archives-là, déclassifiées depuis 12, mais qui ne sont pas du tout les archives classiques du Vatican, on aura une piste.
Et c'est là que vous trouvez.
Et c'est là
vous ouvrez les portes comme ça, tranquillement.
Ça prend 2 mois. Mais et on dit en plus, on ne se cache pas, on dit ce qu'on cherche. Et quand on arrive, on nous donne un petit dossier bleu sur lequel il y a marqué Henri Grouès, Abbé Pierre, en nous disant il n'y a pas grand chose dedans. Et très vite, on s'aperçoit qu'il y a en fait beaucoup de choses. Il y a toute cette correspondance avec toutes ces listes d'agressions que l'abbé Pierre a commises. Ensuite, il y a des échanges même avec la France, avec les États-Unis, avec les ambassadeurs locaux aux États-Unis et au Canada, pour leur dire surtout ne recevez plus l'abbé Pierre. Et on voit aussi les échanges avec la France.
Ça veut dire que c'est une instance un peu annexe qui a ouvert les portes, mais que le Vatican n'aurait jamais accepté ces archives-là.
Mais c'est pas sûr, parce que
il ne soupçonnait pas.
D'abord, il ne savait pas.
Il ne savait pas, et ce que ça montre surtout, c'est que À un moment donné, l'abbé Pierre, après cette alerte, cette demande de procédure judiciaire du Vatican, les évêques qui, jusqu'en 66, les évêques français vont le suivre, etc., il va ensuite échapper pratiquement au contrôle de l'Église, c'est-à-dire que c'est un électron libre. Il devient pas saint, c'était son rêve, le rêve de sa vie. Hein, c'est écrit, là aussi, il l'écrit dans ses carnets intimes. Il va pas devenir saint parce que le Vatican sait dès 55 ce qu'il a fait. En revanche, il va devenir un saint laïc. Sa popularité, cette alerte au Vatican, il va être, d'ailleurs 2 ans après, interné dans une clinique psychiatrique. Et là, c'est l'épiscopat français qui le demande, parce qu'il a récidivé, sûrement. Il en sort au bout de 6 mois. Ensuite, il va à l'étranger, il va créer Emmaüs International. Il se refait une popularité à l'étranger. Et par la suite, il n'a même plus besoin de demander l'autorisation de l'Église pour aller ici ou là. Et l'Église, en fait, à un moment donné, cesse de le surveiller parce que c'est devenu une personnalité...
Pourtant, il y avait quand même des demandes de procédure judiciaire à déclencher. Donc, on a la question de qui a protégé, au final. Est-ce que c'était Rome? Est-ce que c'était la France?
C'est plutôt l'épiscopat français.
C'est son évêque qui enterre purement l'affaire, puisqu'on a la lettre, la réponse de l'évêque au Vatican, et qui dit qu'en fait, finalement, les accusations d'agression, l'abbé Pierre lui a dit que c'était pas tout à fait ça, donc il minimise les faits, et ensuite, il dit ce qu'a dit Marie-France, c'est-à-dire que comme c'est quelqu'un, c'est écrit comme ça, qui galvanise les masses, et que c'est un prophète en France, sous-entendu, il est intouchable, c'est pas la peine d'insister.
Et là, on voit que l'épiscopat français est très, très malin, en fait, et très stratège, parce que après les révélations de notre livre, ces révélations, ils ont fait un communiqué en nous félicitant pour notre travail, et ils ont demandé au Vatican d'ouvrir leurs archives, comme si la clé du mystère de la protection de l'abbé Pierre était au Vatican. Or, le Vatican a fait le job au début, on peut dire comme ça, pour parler un peu trivialement, et ceux qui après n'ont pas poursuivi cette procédure, qui auraient pu
et surtout
qui n'ont pas demandé à l'abbé Pierre de se démettre de son ministère, il aurait pu quitter l'habit, etc. L'histoire aurait été différente. Donc c'est plutôt l'épiscopat français et qui aujourd'hui dit on veut les archives du Vatican.
Parlons justement des réactions que ce livre, que votre enquête provoque. On est dans un contexte particulier avec la mort du pape tout de même, et avec en filigrane dans le bilan du pape François aussi la question des abus sexuels qui n'a pas été totalement traitée. On a aussi été secoué par différents scandales en Belgique, avec des victimes qui sont toujours en demande d'une réponse claire de l'Église. Qu'est-ce que ça traduit aussi de l'Église, cette affaire-là, selon vous ?
Ça traduit à la fois, en France, l'Église a quand même fait quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire une enquête. Ils ont mobilisé une commission indépendante sur les agressions sexuelles en France sur 70 ans, sur des mineurs, qui a révélé que, en fait, tout ça était systémique, c'est-à-dire que cette enquête a montré que l'Église protégeait les agresseurs et pas les victimes, et qu'ils ont comptabilisé le nombre de victimes qu'il y a eu en 70 ans, 300 000 mineurs. Donc ça, c'est un peu un fait.
Chez nous, il y a aussi une commission d'enquête, mais pas courageux, de la même ampleur avec les victimes.
Courageux. En revanche, on voit encore avec l'affaire de Betaram que toutes ces affaires sont encore très difficiles à dénouer, même si maintenant les évêques ont l'obligation de se mettre en contact avec la justice en France. Dans les faits, ça prend encore du temps, et d'autant plus sur les affaires anciennes, où là, il y a encore une omerta.
Votre livre pose problème dans le contexte actuel de la mort du pape, justement ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous mettez le pavé dans la mare au moment ?
Pas forcément, parce que le pape, il l'a dit lui-même. Quand il a dit « Moi, je suis arrivé bien après ». Donc, on peut imaginer que... je crois pas qu'il mentait quand il disait « Le Vatican était au courant après la mort de l'abbé Pierre ». Il disait « Moi, à l'époque, j'étais pas en fonction ». Et comme je vous disais tout à l'heure, l'abbé Pierre était devenu une sorte d'électron libre. Il était mort. Je pense pas que le pape est allé demander...
Il y aura une suite, maintenant ? Vous avez le sentiment que là, ils ne peuvent plus faire autrement, ouvrir les archives ?
Oui, ce qui serait bien, si vous voulez, c'est que là, on a accès à des documents jusqu'en 58, mais maintenant, ce qu'on a envie d'avoir, c'est le reste.
Après, c'est inconscient.
Qu'est-ce qui se passe? Et donc, pour l'instant, la réponse officielle, en tout cas jusqu'à avant la mort du pape, c'était on ne sait pas. Donc, il y avait une espèce de flou, entretenu ou pas, sur faut-il mettre au clair, lever le voile sur cette affaire? Parce que des documents, il y en a, ça semble certain.
Et c'est l'info-choc de votre livre, mais on précise aussi que ce livre, c'est le récit de comment l'abbé Pierre a façonné son icône lui-même, comment il s'est fabriqué son histoire, comment il a gommé une partie aussi de son histoire. Il y a ce volet sur les agressions sexuelles, mais il y a aussi la face sombre de ses prises de position politiques. On a l'image de l'abbé Pierre résistant. Vous démontrez qu'il avait des propos antisémites clairement affichés, qu'il avait même des accointances avec le régime de Pétain. Ça aussi, en France, c'est inédit. Pourquoi ?
C'est parce que, d'abord, c'est l'abbé Pierre, en 54, est devenu une star en France et une star mondiale, hein, l'hiver 54. Je ne sais pas si en Belgique, voilà. Donc, à partir de là, c'est lui qui a raconté son histoire et sa légende, et qui a même raconté l'histoire de sa résistance, etc. Très tôt, l'abbé Pierre, il a eu conscience qu'il aurait un destin exceptionnel. Il a voulu ce destin, il voulait être, je disais, ou saint ou Napoléon, ou les deux à la fois. Il a été un saint laïque, quelque part.
Et tout le monde a été aveuglé.
Et tout le monde a été
aveuglé. Y compris la presse, y compris.
Oui, parce qu'il y avait cette face lumineuse. Il y avait d'abord son charisme, il y avait d'abord son combat indéniable contre la misère. Il a quand même inventé les communautés d'Emmaüs. C'est un modèle tout à fait original, même si il avait un précurseur en Belgique auquel il n'a jamais rendu hommage, parce qu'il rend jamais hommage à ses prédécesseurs, l'abbé Pierre, qui s'appelait le père Froidure, qui a créé ici une association qui s'appelle les Petits Riens, sur le modèle d'Emmaüs, on dit dès 1937. Bon, je referme la parenthèse, mais il était
sur ses propos antisémites, par exemple.
Oui.
Vous expliquez comment, à un moment donné, il est auditionné par des autorités françaises.
C'est en 44. C'est ça qui est frappant.
Et qu'il a des propos clairement antisémites. Hein. Il parle de ces Juifs qui regorgent d'or, qui se plantent dans les montagnes, alors qu'on sait très bien qu'autour de Grenoble, à ce moment-là, ce sont des Juifs qui fuient.
Ça, on a été stupéfaits par ce document, parce qu'on est effectivement en 44, et il tient les propos que vous dites, c'est-à-dire avec les clichés antisémites les pires, quoi, sur ces familles.